quand vous arrivez à passer à travers tout. Mais il faut faire un petit peu attention. Mais c'est très beau cette définition. La conformité de l'intelligence avec le réel. Alors je peux préciser, parce qu'il faut préciser, parce que depuis Saint Thomas, Kant est passé, et depuis Saint Thomas, il y a eu Descartes, Kant et Nietzsche, et donc je dois faire attention. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Je dois dire aujourd'hui, la vérité, c'est ce que l'intelligence conçoit du réel qui est conforme au réel. Parce que quand je dis adéquation de l'intelligence avec la réalité, ce n'est pas tout à fait précis. Alors il faut dire, c'est ce que l'intelligence conçoit du réel ou dit du réel qui est conforme au réel. Vous voyez ? On regarde deux façons. On regarde ce que nous disons du réel et le réel lui-même. Et l'intelligence, en effet, conçoit quelque chose de la réalité et elle est capable de mesurer ce qu'elle conçoit de la réalité avec la réalité elle-même. Ça, c'est le privilège de l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence fait son autocritique. Et en affirmant qu'elle est vraie, elle fait son autocritique. Elle dit, ce que je dis là est conforme à la réalité. Et ceci nous fait comprendre comment ce que l'intelligence conçoit n'est jamais la réalité. Ce qui est toujours très important. La réalité est toujours plus que ce que je dis la réalité. Là, j'évite le positivisme. Dans cette définition de la vérité, je m'oppose, dit immédiatement positivisme. Dans le positivisme, on dit ce que je conçois de la réalité est la réalité. Voilà le positivisme. Ce que je conçois de la réalité est la réalité. Tandis que dans le réalisme, ce que je conçois de la réalité est conforme à la réalité. C'est pas tout à fait la même chose. À la place de mettre l'identité, je mets la conformité. En mettant la conformité, je montre qu'il y a une altérité. Et je montre que cette altérité peut se mesurer au réel. C'est le réel qui mesure mon intelligence. C'est pas mon intelligence qui mesure le réel. Et pas mon intelligence qui est le réel. Donc il faut là bien saisir. C'est un problème très important et très intéressant. Mais c'est capital pour comprendre que dans la personne humaine, l'élément de la vérité est actuel. Si je suis en présence de quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, il n'est pas une personne humaine. C'est affolant. Il n'y a pas beaucoup de personnes humaines. Et c'est vrai, il y a beaucoup de somnambules. Des somnambules qui sont téléguidés. Tous les gens qui sont téléguidés ne sont pas des personnes humaines, ce sont des individus. Vous voyez, toute la politique consiste à faire de vous des somnambules pour que vous puissiez obéir parfaitement au gouvernement. Alors, faire de vous des somnambules qui sont téléguidés. Absolument téléguidés. Parce que si on a affaire à des personnes, les idéologies ne marchent plus. Alors, on résiste aux idéologies. Tandis que l'idéologie consiste à supprimer la personne humaine pour ne plus faire que des individus, qui sont des parties d'un tout. Et le tout, c'est justement l'État. Alors que dès que vous avez affaire à une personne humaine, vous avez affaire à un esprit qui cherche la vérité. Et quand on cherche la vérité, on ne se laisse plus mener par des idéologies. Parce que l'idéologie mesure le réel, alors qu'on sait que le réel mesure l'intelligence. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que la personne humaine implique, en premier lieu, ces trois dimensions au plan philosophique. L'autonomie, c'est très vrai. Et là, très bien. La rencontre avec une personne humaine dans l'amour et dans un amour d'amitié. L'amour d'amitié est nécessaire pour que la personne humaine puisse être une personne humaine. Alors, je dis l'amour d'amitié au niveau de la personne humaine ou au niveau de Dieu. Ça, c'est sûr. Il y a là deux dimensions de la personne humaine. Et l'amour d'amitié est absolument nécessaire. Une personne, quelqu'un, un individu qui n'aime pas, n'est pas une personne. Ah, ça va très loin. Alors, faisons attention, hein. Un individu qui n'aime pas n'est pas une personne. Une personne n'existe comme personne que dans la mesure où elle a l'autonomie dans son être et qu'elle aime une autre personne. Et pour aimer cette autre personne, il faut qu'elle cherche la vérité. Et donc vous avez là trois dimensions absolument nécessaires qui vous donnent ce que c'est que la personne humaine. C'est pas suffisant encore, hein, mais c'est quelque chose de très important là. L'autonomie dans l'ordre de l'être, la capacité de dépassement dans l'amour, la personne n'est personne que dans comme qu'elle sait qu'elle se dépasse. Et pour pouvoir se dépasser vraiment et rejoindre l'autre, il faut la recherche de la vérité. La recherche de la vérité est garante du véritable amour. L'intelligence est là au service du véritable amour, pour permettre un véritable amour, pour permettre à l'amour d'être parfaitement lui-même. Alors la vérité, la recherche de la vérité est là. Il faut cette recherche de la vérité. On est vrai comme personne humaine que quand il y a une recherche de la vérité. Voilà les trois. Vous voyez que ces trois éléments présupposent les trois aspects de la psychologie. Mais ça la dépasse. Autonomie, sécurité, valorisation. C'est facile à comprendre. L'autonomie, c'est très facile, c'est le même mot, alors ça va. La sécurité, d'où vient-elle? La sécurité provient de la recherche de la vérité. C'est très curieux. Quand on ne cherche plus la vérité, on tombe dans l'angoisse. C'est la recherche de la vérité qui nous permet de rejoindre toujours le réel. Et l'angoisse, c'est l'oubli du réel. C'est ça l'angoisse, c'est l'oubli du réel. Si l'intelligence recherche toujours le contact avec le réel, l'angoisse disparaît. C'est sa recherche de la vérité, vous voyez. Ça, c'est très important. La recherche de la certitude ne suffit pas. C'est la recherche de la vérité, c'est le contact avec le réel. Donc, c'est la recherche de la vérité. L'intelligence est faite pour la vérité. Et le point de vue de la valorisation, c'est tout simplement l'amour. La seule véritable valeur qui est en nous, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui supprime la culpabilité. S'il n'y a plus recherche d'un véritable amour et d'un dépassement, je me replie sur moi-même, je tombe dans la culpabilité. Donc, vous voyez là, et c'est ça qui est important à saisir au point de vue philosophique, vous voyez là que le psychologue constate, le philosophe va plus loin et montre comment je peux construire ma personne humaine. Il y a quelque chose qui est donné, c'est mon autonomie. Bon, il faut y croire, ou il faut la découvrir. Il faut en avoir l'évidence. J'ai une âme spirituelle. Alors, si je n'ai pas cette évidence d'une âme spirituelle, il n'y a pas de recherche de la personne humaine. La première chose qu'on doit découvrir, c'est qu'il y a en nous un certain absolu, notre âme spirituelle. Deuxièmement, nous découvrons que cette âme spirituelle, elle est faite pour aimer. Et que pour qu'on puisse véritablement aimer, il faut la recherche de la vérité. Vous avez là les trois aspects essentiels. Vous voyez que de cette manière-là, c'est très curieux, vous rejoignez bien la grande vision de la Genèse. On est créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image de la très sainte Trinité. Il y a bien la marque de la très sainte Trinité. Alors là, c'est un regard évidemment de théologien et de croyant, mais c'est intéressant de voir cela. C'est que cette recherche philosophique, l'autonomie profonde de mon âme spirituelle, la recherche de l'amour et la recherche de la vérité rejoignent bien ce que toute la tradition chrétienne, à partir de la Genèse, a découvert, les trois dimensions de l'image de Dieu en nous. Le dominium, l'intelligence et l'amour. Le dominium, c'est mon indépendance, c'est mon autonomie. Je ne peux dominer que si j'ai l'autonomie. C'est vrai, c'est mon âme spirituelle qui est l'horizon du monde spirituel et du monde physique. Et c'est pour ça que je domine le monde physique. Je ne suis pas dominé par le monde physique, je domine. Et donc j'ai quelque chose de royal en moi par rapport au monde physique. J'ai cette royauté de l'autonomie fondamentale de mon âme spirituelle. Je suis le maître de l'univers. C'est très beau de dire ça. Je suis le roi de l'univers, sans orgueil. C'est vrai, c'est mon âme spirituelle. Mon âme spirituelle dépasse tout le monde physique. Et c'est pour ça que je suis responsable du monde physique. Parce que je le domine par mon âme spirituelle. Mon âme spirituelle domine mon corps, elle fait subsister mon corps, et en faisant subsister mon corps, elle assume tout l'univers. Mais parce que le corps humain, est la partie la plus noble de tout l'univers. C'est la partie principale de tout l'univers. Il n'y a rien de plus noble que le corps de l'homme. Et le pape nous a demandé de faire la philosophie du corps. Et si le pape demande de faire la philosophie du corps, c'est pour que nous comprenions comment le corps est la partie principale de tout l'univers. Et ça, c'est profondément vrai. C'est la partie principale. Et donc, c'est le corps de l'homme qui mesure l'univers. Localise l'univers. Tout l'univers est pour le corps de l'homme. Tout l'univers physique est pour le corps de l'homme. Partie principale. Et vous savez ce que disaient les anciens ? La partie principale, c'est le tout. Et donc, je peux dire que tout l'univers, il est dans le corps de l'homme. C'était la grande intuition de tous les anciens quand ils disaient que l'homme, c'est un petit univers. Le microscope et le macroscope. Les deux. Le petit univers qui est en nous, c'est le point de vue de notre corps. Et tout l'univers, il est présent dans notre corps. Et au-delà de notre corps, émerge notre âme spirituelle. Notre âme spirituelle assume notre corps et lui donne sa signification profonde. Et donc notre âme spirituelle permet d'avoir cette autonomie profonde, en respectant justement ce que nous allons voir maintenant, la dépendance. Donc les trois aspects qui me semblent très importants à saisir de toute personne humaine. Toute personne humaine implique ces trois aspects. Mais comprenons bien, cette personne humaine se donne à travers la lutte et à travers un devenir. Ce qui explique qu'à certains moments, il peut y avoir des failles. Donc, nous avons vu les trois dimensions, autonomie, deuxièmement, amour, troisièmement, vérité. Voilà ce qui constitue la personne humaine. C'est l'esprit. L'esprit implique autonomie, l'esprit est capable d'aimer, l'esprit recherche la vérité. Mais cet esprit, il est dans le corps. Il informe le corps. Un corps vivant. Un corps organique. Un corps complexe. Un corps capable de croître et capable aussi de décroître. C'est par notre corps que nous connaissons la croissance et que nous connaissons le déclin. N'est-ce pas ? Alors, il ne faut pas oublier que cet esprit qui implique ces trois dimensions, par où je suis une personne, cette personne assume le corps. Alors, on comprend comment il y a là tout un devenir et qu'il y a là toute une lutte. Je suis autonome, mais je suis limité dans mon autonomie. Et c'est ça fait partie de la personne humaine, de prendre conscience qu'on est autonome et qu'on est limité dans son autonomie. Je suis limité dans mon autonomie. Comment ? Et c'est très simple à comprendre, parce que par le corps, je suis une partie de l'univers. Je suis bien tout l'univers parce que je suis la partie la plus parfaite de l'univers. Mais je suis en même temps dépendant de l'univers par mon corps. Si je suis dépendant de l'univers, il y a une limite dans mon autonomie.
comprends qu'à côté de moi, il peut y avoir une autre personne autonome.
Et que je dois respecter par le fait même. Je ne suis pas donc un acte. Je n'ai pas donc une autonomie absolue. J'ai une autonomie, c'est très vrai, mais cette autonomie, elle va se réaliser dans une dépendance. Elle va assumer une dépendance. J'ai une autonomie et je suis dépendant. C'est pas sur le même plan. Alors ne disons pas, par là vous relativisez la personne. Pas du tout. Je maintiens l'absolu de la personne qui est au niveau de l'esprit, mais je dis que la manière dont cette personne va exister va impliquer quelque chose de relatif. Par le point de vue du corps, je suis dépendant de tout l'univers. Et c'est pour ça que je maintiens mon corps autant que possible dans sa santé. Mais le problème de la santé joue là. Pour être une personne humaine, je maintiens ma santé autant que je peux. Autant que je peux. Parce que je sais très bien que la maladie va augmenter la limite. Un être maladif, un être malade est plus dépendant de l'univers qu'un être qui est en pleine santé. Il subit davantage la neige, la pluie, la glace et la chaleur. Il le sent davantage. Et il est bien évident que quand vous êtes très sensible à la chaleur, ou très sensible au froid, ou très sensible à... vous ne pouvez pas avoir la même autonomie. Vous ne développez pas de la même manière votre capacité d'aimer, votre capacité de vérité. Donc il faut comprendre ce conditionnement de la personne humaine. C'est là où nous saisissons le conditionnement. Et là, j'ai saisi la finalité. La finalité, c'est l'amour. Mais le conditionnement, ne séparons jamais la finalité du conditionnement. Mais distinguons-les et comprenons que le conditionnement demande d'être assumé par la finalité. Il faut comprendre que la véritable finalité n'est saisie qu'à travers le conditionnement. Je ne sépare pas les deux. Si je séparais les deux, j'aurais une conception d'une personne purement spirituelle. Et je tomberais dans l'idéalisme. Ma personne humaine implique mon corps et doit assumer mon corps. C'est le conditionnement de ma personne humaine. Et ce conditionnement de ma personne humaine, il est présent dans ma personne. Et il implique un devenir, et il implique des luttes. Je suis en état de lutte, constant. Toujours. C'est bien évident. Il y a des agressions de droite et de gauche. Alors pour certains c'est plus de droite et d'autres c'est plus de gauche, mais ça ne fait rien, tu vois. Mais il y a des agressions constantes. Je suis un être qui est constamment agressé, constamment, parce que mon corps est une partie de l'univers. Alors quelquefois c'est un petit insecte, je suis agressé par un petit insecte, quand on est piqué par une mouche, une sale mouche, on ne sait pas les conséquences, c'est pas drôle. Alors il y a des endroits où ces mouches sont moins méchantes. Elles sont simplement un peu ennuyeuses, c'est tout. Mais il y a des moments où elles sont. Je suis agressé par des animaux qui peuvent être très méchants. C'est vrai, on ne voit pas ce que c'est d'être dans un pays où les animaux ne sont plus méchants, ils sont domestiqués. Alors que quand vous êtes dans un pays où il y a des animaux qui peuvent vous piquer constamment, ben vous voyez ce que c'est que l'agressivité. Hein. L'agressivité, c'est quand même quelque chose. Alors, le repos et la lutte, eh bien ça c'est le corps. Ça c'est très important par rapport à l'autonomie, par rapport à l'amour. Ah! Je vais retrouver aussi le conditionnement. Mon amour spirituel, il se développe dans la lutte. Je vous l'ai dit. Ça implique une auto-éducation. Je ne peux jamais dire, ah maintenant ça y est, j'ai compris ce que c'est de l'amour spirituel, ça y est. Je suis une personne humaine parfaite, j'aime. Eh bien non, si vous dites ça et que vous vous tournez les pouces, immédiatement, il va y avoir le développement d'imaginaire. Le développement des passions qui va inhiber votre amour spirituel. Et votre amour spirituel ne sera plus la rencontre vis-à-vis de l'autre et vous vous retournerez vous sur vous-même dans une tempête de lacs. Et dans la tempête de lacs, c'est l'imaginaire. Alors il faut comprendre que de fait, cet amour qui est ma finalité se développe dans un conditionnement, se développe donc dans un devenir et à travers les luttes. La lutte, il y a un milieu. Vous voyez, ici, c'était le milieu physique. Le milieu physique, le milieu biologique dans lequel je suis. Hein. Les gras, les moustiques, les animaux. N'est-ce pas, le climat tempéré ou le climat non tempéré, le climat, et ainsi de suite. Je suis obligé de lutter, je suis obligé de... Oui, regardez la manière dont les Esquimaux vivent et la manière dont les gens vivent à l'équateur. C'est très différent. C'est intéressant de voir ça. Parce que ça montre très bien le point de vue de la lutte différente selon les différents climats. Ici, c'est un milieu interne. C'est le milieu de l'imagination. Mon amour spirituel se développe à travers les passions. Dans les passions et à travers les passions. J'utilise les passions, exactement comme j'utilise le milieu physique, j'utilise les passions. Et je dois les utiliser, chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous devons les connaître, pour pouvoir les utiliser. Nous devons savoir que notre irascible est particulièrement développée. Nous devons savoir que notre concupiscible est particulièrement lamentable. Alors, à ce moment-là, nous devons comprendre tout ce développement des passions pour les utiliser, les assumer. Pour pouvoir aimer spirituellement. L'amour spirituel assume les passions, il n'est pas déterminé par les passions. Vous voyez, toujours le danger, c'est que le conditionnement étouffe la finalité. C'est cela qu'on appelle la situation limite. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça, c'est très intéressant à voir. Parce que ça, ça fait partie, justement, de ce que c'est que la personne humaine. Alors, les passions sont là comme les passions, et je mets avec les passions l'instinct, les instincts. Tout l'aspect affectif, le soubassement de l'affectivité spirituelle, c'est les passions, les instincts, qui sont le milieu interne dans lequel se développe mon amour spirituel. Et puis alors, troisièmement, la vérité. Alors là, encore l'imaginaire. Il faut que mon intelligence arrive à se servir des sens et de l'imagination sans être entièrement inhibé par l'imaginaire. Mais il y a de même un milieu interne dans lequel se fait ce développement de la vérité. Non seulement le milieu interne, mais le milieu de la culture aussi. C'est la même chose, hein, ici aussi, du côté affectif. Parce que les idéologies, le poids des idéologies, le poids de l'opinion des hommes m'empêche quelquefois d'atteindre la vérité. Je dois lutter constamment contre ce milieu dans lequel je me trouve et qui me voudrait me téléguider. Oh, je dois rechercher la vérité. Alors je dois aller quelquefois contre-courant. Mais je ne vais pas contre-courant pour le plaisir d'aller contre-courant. Parce que ça, ce serait très mauvais. Je vais à contre-courant quand je suis en face d'opinions fausses et je veux remonter à la source. Je suis finalisé. Celui qui est finalisé n'est jamais anti. C'est très très mauvais d'être anti. Ça, c'est la réaction pour la réaction. Alors ça, c'est pas la recherche de la personne. Il faut remonter à la source, redécouvrir la source, on cherche la vérité. Et la vérité, on la prend là où on la trouve. Donc il ne faut jamais être anti. L'attitude anti, c'est une fausse attitude de la personne humaine. Alors vous voyez comment le poids du conditionnement peut être très très fort et peut étouffer ce que représente la recherche de la finalité. La finalité, ce n'est pas commode à découvrir. Plus le milieu dans lequel on est lourd, plus il est pesant, plus c'est difficile de découvrir la finalité. Alors, dernier mot, c'est de voir comment ce conditionnement qui nous est donné à travers ce milieu dans lequel on est, comment ce conditionnement peut étouffer la finalité. Alors, c'est ce qu'on appellera, et je crois que c'est très juste, c'est Jaspers qui appelle ça, et je crois qu'on peut très bien reprendre ce point de vue-là, ça fait tout à fait partie de la philosophie contemporaine, ça. faut pas la bouder, la philosophie contemporaine. Il faut prendre ce qu'elle a de bon. Et dans la philosophie contemporaine, il y a cette expression nouvelle de la situation limite. Je trouve ça très beau. La personne humaine peut à certains moments être en situation limite. Qu'est-ce que c'est que la situation limite? C'est lorsque le conditionnement devient tel qu'il est toute la finalité. Il y a un péril à ce moment-là. Alors, il y a un philosophe italien de Rome qui a écrit il y a quelques années un article très intéressant en disant « L'homme est en situation limite actuellement. » Au fond, la plupart du temps, la situation dans laquelle on se trouve empêche la personne humaine d'être une personne humaine. Et on retombe dans le conditionnement. Et quand on retombe dans le conditionnement, on est mûr pour un gouvernement totalitaire. Ça se prépare au gouvernement totalitaire. C'est de mettre l'homme dans une situation limite pour qu'il soit prédéguidé parce qu'il n'a plus au-dedans de lui-même une lumière. La lumière de la finalité. La lumière de la personne humaine. Son autonomie. Alors, la situation limite, c'est assez facile à comprendre. Je prends toujours l'exemple très simple, hein, et vous allez tout de suite comprendre. Quand on vit en Suisse, on comprend ça parfaitement. Et quand on vit en montagne, on comprend ça parfaitement. C'est la question de la neige. Les premiers flocons de neige. Toujours très beaux, les premiers flocons de neige. Vous savez qu'à Rome, les premiers flocons de neige, on donne, les universités ne font pas de cours. Pour fêter les premiers flocons de neige. Parce que justement, à Rome, ça reste qu'il faut un petit peu comme ça. Mais on ne fait pas ça en Suisse, c'est dommage. La fête de la neige, la fête de la neige, les premiers flocons de neige. Quand vous voyez un Africain qui vient en Europe pour la première fois et qui voit la neige pour la première fois, c'est comme la marne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous tombe du ciel comme ça, parce que ça n'existe pas, évidemment, dans les pays de l'équateur tropical. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette neige? C'est beau. Il y a un phénomène très curieux. Les premiers flocons de neige, c'est très beau. Surtout si vous êtes en voiture, avec un parapluie. Bon, alors c'est très très beau. C'est merveilleux. Quand la neige devient plus drue et que vous tombez dans une tornade de neige, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire grande attention et vous êtes quelquefois obligé de vous arrêter. Et puis quand vous avez en face de l'avalanche, alors à ce moment-là, quelquefois, vous n'y revenez plus. Vous voyez, la situation limite, c'est toujours la même neige. Mais c'est le phénomène de la quantité qui vient transformer la qualité. Eh bien, c'est exactement ça la situation limite. Le conditionnement, il est quantitatif. Normalement, il doit être assumé par la qualité. Mais il peut très bien se faire, dans certaines situations, que le conditionnement est tel, la quantité est telle, que la qualité est étouffée. Alors la finalité disparaît en face du conditionnement. Parce que le conditionnement est très très fort. Il est trop lourd. Alors on est étouffé. La personne humaine aujourd'hui est constamment étouffée. Constamment étouffée. Parce qu'elle ne découvre pas sa finalité, ne voit pas ce que c'est que... Où elle va, les gens ne savent plus pourquoi ils existent. Quelle est la signification de la vie humaine? Constamment, on dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'exister? Qu'est-ce que ça veut dire d'exister, d'être là, à gratter du papier toute la journée, quoi. Fonctionnaire d'un État dont on n'est pas toujours d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? On gratte du papier toute la journée. Quelle est la finalité de ma vie? Comment respirer? Je suis étouffé. Je suis sous ce conditionnement terrible qui m'étouffe. Vous voyez, on est situation limite quand le conditionnement vient. C'est ça, c'est très important. Vous voyez, c'est pour ça que la grande hygiène spirituelle consiste à se refinaliser tous les jours. Cet acte d'adoration par jour nous remet dans la finalité. Mais cet acte d'adoration par jour, ça ponctue notre journée en l'actuant. C'est par l'adoration que nous sommes finalisés. Et l'adoration nous permet de sortir de tout ce que représenteraient les avalanches des conditionnements. Et les avalanches du conditionnement, on voit très bien, c'est l'angoisse, la culpabilité, l'aliénation, qui risque d'étouffer complètement la personnalité. Et de l'étouffer complètement. Alors à ce moment-là, on est submergé. Quelle est la seule manière qu'on peut tous faire, la seule manière de supprimer ces avalanches et de permettre de respirer? Mais comme on dira un médecin, vous dira, faites des exercices de respiration. Je connaissais comme ça un bon vieux médecin, merveilleux, vieux médecin de famille, vous savez. Lorsque je voyais qu'on était permettre des étudiants dominicains, il faut toujours, quand on est permettre, il faut avoir un médecin à côté de soi, un bon médecin. Hein, parce que on soigne l'âme, il faut un médecin qui soigne le corps, ça c'est forcé. Il faut, alors il me disait, oui, quand vous voyez que ça, mais dites-lui de respirer. Ça lui supprimera beaucoup d'angoisse. Mais qu'il respire, qu'il ouvre sa fenêtre et qu'il se mette à respirer. C'est très très juste ça. La respiration nous remet en contact avec le réel. Ça nous met en contact avec le réel. C'est l'âme, le sens de la respiration, disons qu'il faut la respirer pour retrouver un point de vue spirituel. La respiration nous met en contact avec le réel. Et l'autre réel, c'est Dieu, l'adoration. Cet acte d'adoration, cet acte de respiration par vous, ça c'est une hygiène élémentaire. Et c'est merveilleux de faire ça. Si vous faites ça, je vous affirme que la situation limite progressivement disparaîtra. Parce que vous aurez un contact avec le réel de la respiration, c'est le premier, et le réel spirituel, Dieu. Alors à ce moment-là, on lutte contre cette situation limite devant laquelle on se trouve. Et ça, on peut tous faire ça. Et c'est excellent, parce que ça maintient en nous la volonté. On acquiert la volonté en faisant ça, ponctuant sa journée par cet acte libre et cette respiration libre. Surtout quand on est jeune, on doit le faire. Hein. Après, ça devient notre vie, on n'a plus besoin, on respire tout le temps et on fait toujours des actes d'adoration. Mais c'est nécessaire de le faire au point de départ pour ponctuer, vous voyez. C'est l'échelle de Jacob, par où la terre rejoint le ciel. Alors c'est l'échelle de Jacob et par là, merveilleux, on étouffe. Mais vous étouffez, est-ce que vous avez respiré? Ah non, je n'ai pas respiré. Ah, c'est pas étonnant, vous étouffez. Vous n'avez pas respiré. Est-ce que vous avez adoré? Ah non, je n'ai pas adoré. Ah, c'est pas étonnant alors. Vous êtes pris par l'imaginaire. L'adoration et la respiration luttent contre l'imaginaire. Vous voyez, les deux extrêmes de notre vie. Le corps et l'âme spirituelle. Et comme ils sont unis, il faut l'un et l'autre les respecter. Le conditionnement de la respiration, c'est très important, le conditionnement de la respiration. C'est très très important parce que ça nous fait respirer un air pur. Vous voyez, surtout quand on est ici. J'espère que vous avez fait 7 actes de respiration par jour ici, devant votre fenêtre, pour respirer à fond, pour pouvoir emporter cet air pur. Parce que dans Paris, c'est pas toujours commode. Hein. Vous voyez, l'air est pas tellement pollué. Et vous voyez, la pollution d'air, c'est quoi? Condition, situation limite, du côté de la respiration. Et l'air est pollué par le point de vue des idéologies, qui fait qu'on n'adore plus. Situation limite, du côté de l'art spirituel. Alors, c'est important de comprendre ça. La pollution de l'air, la pollution de la mer, on le dit ça, mais la pollution spirituelle. Et les pollutions, c'est justement le fait du conditionnement qui devient tel qu'on ne peut plus respirer. Bon, ceci, vous voyez, c'est pour vous montrer comment on doit lutter et que la philosophie aboutit à des choses extrêmement pratiques. Hein. Les 7 respirations par jour et les 7 actes d'adoration par jour. Et alors, si vous faites ça, vous luttez. Vous êtes dans l'attitude de celui qui lutte. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être dans l'attitude de celui qui lutte et qui se fortifie. Si on n'a pas cette attitude-là, non, alors on a désarmé d'avance. On doit lutter, on doit conquérir sa personnalité. Ça se conquiert, ça. Alors, évidemment, vous voyez, dernier point. Quand je dis que ça se conquiert, ne disons pas alors la personne égale la conscience, pas du tout. La personne, elle est fondamentale par l'âme spirituelle, c'est l'âme spirituelle qui est créée par Dieu et qui fait la personne humaine. Il n'y a plus beaucoup de temps, mais quand même, je voudrais
Si vous pouvez dire un petit mot sur la question de la, le, ce que vous aviez, ce qu'on avait touché l'autre jour, en tant que psychologue, vous connaissez ça parfaitement, et vous avez beaucoup de cas pour montrer le point de vue des passions féminines et passions masculines. Hein? Ça ne vous dérange pas? On va vous laisser. Hein. Je crois qu'il vaut mieux que vous mettiez un peu. Oui, je vous mets à votre place.
Je ne voudrais pas parler longtemps, je voudrais simplement dire ceci. Tout ce que vous avez entendu est pratiquement réel dans le sens que les hommes d'aujourd'hui donnent à ce mot. Ce qui leur paraît réel, c'est ce qui est bassement concret. Vous voyez ? Et la plupart du temps, quand ils viennent vous trouver, ils viennent me trouver, par exemple, quand ils sont en déséquilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un déséquilibre ? C'est ne pas se sentir bien dans sa peau, ne pas se sentir bien avec soi-même. Et alors, tout de suite, il vous raconte non pas ce qui est la vérité, il vous donne des explications. Classiquement, quand vous allez voir un médecin, vous dites « j'ai mal au foie ». Et en réalité, le problème, c'est que le médecin a surtout pour rôle de vous dire « c'est en effet le foie qui est malade ». Mais vous ne donnez pas une explication quand vous dites au type « j'ai mal au foie et je viens chercher tel médicament ». Car non seulement ils ne vous donnent pas de renseignements, mais ils vous prescrivent le médicament. Alors vous voyez quelle est la position du médecin dans ces cas-là. Dans notre époque, ce qui change, c'est qu'en effet, beaucoup de questions se posent. Que certaines habitudes que nous pourrions appeler des conditionnements sont bousculées. Et que maintenant se posent aux hommes, d'une manière claire et douloureuse, certains problèmes qui, eux, sont fondamentaux, mais qui n'expliquent jamais tels qu'ils sont. Ils vous donnent un diagnostic et ils vous prescrivent une thérapie. C'est ça qu'ils attendent du médecin. Ce que doit s'occuper, ce à quoi est lié le médecin, c'est justement à la bonne hygiène, la manière de se sentir bien dans sa peau, parce que certaines questions se posent tellement douloureusement qu'elles ne sont pas posées dans la réalité. En réalité, les gens viennent vous dire « j'ai mal à l'estomac, j'ai mal ceci, j'ai mal cela, c'est le foie, c'est la rate, c'est le sang, c'est tout ce que vous voudrez. C'est que je suis angoissé, c'est que je suis atteint par des névroses ou par dont ils font un diagnostic, et par des symptômes qui se rattachent à des psychoses. En réalité, ils emploient des mots qui couvrent une ignorance, trompent gravement le médecin et par conséquent le thérapeute. C'est ça que nous voyons et c'est ce qui, au fond, caractérise le plus le domaine actuel. Et ceci, alors, on me pose la question entre la psychologie de la femme et les réactions de la femme, les réactions de l'homme. Je crois qu'en effet, les hommes et les femmes ont tous les mêmes défauts, par proportions différentes, mais enfin, je ne crois pas qu'une statistique puisse être faite là-dessus, et si elle l'est, je pense qu'elle ne sera pas valable. Car je dois vous dire, très franchement, que ce que nous apportent à nous, médecins, les statistiques, c'est ininterprétable, la plupart du temps, parce que c'est basé sur la mise en mémoire d'un certain nombre de faits qui souvent n'ont rien de commun et qui souvent ne sont pas dits d'une manière valable. Alors, dans l'époque actuelle, je vous fais une simple remarque en passant. Tous les budgets de l'assistance publique et des œuvres sociales dans tout le monde, il n'y a pas que la France, et la France est peut-être privilégiée par certains côtés, parce qu'elle y croit moins, elle est plus sceptique. Eh bien, il est évident que tous ces budgets qui sont énormes sont basés sur des chiffres dont aucun n'est interprétable. Alors, moi, je pense qu'il est assez logique, pour ma logique à moi, que ça n'aille pas très bien. Quand vous raisonnez, vous, femme ou homme, vous pensez tous que l'État ne fait pas assez, que la puissance publique ne fait pas assez. Je suppose que s'il faisait beaucoup moins, et que si les budgets étaient plus pauvres, ça irait beaucoup. Alors, les réactions entre femmes et hommes, bien entendu, qu'elles sont différentes. Je crois qu'en effet, les mêmes défauts, les mêmes vertus et les mêmes gros défauts sont les mêmes chez la femme et chez l'homme, mais ça réagit d'une manière totalement différente. Pour la femme, elle est, si vous voulez, plus terrestre. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est en réalité la vérité. C'est elles qui viennent nous poser des questions extrêmement précises et en budget et en comptabilité. Et quand elles viennent nous voir avec, en nous présentant des problèmes qui sont pas faux, mais présentés d'une manière qui est la leur, la présentation de la personne, eh bien elles rentrent à la fin dans des détails infimes. Quel est le bureau de sécurité sociale qui me donnera telle pension et à quel pourcentage? Et elles ont fait des calculs. Des calculs en général très précis, et elles vous posent des questions à laquelle la plupart du temps, dans ce détail-là, vous ne pouvez pas répondre. Vous voyez? Ça, c'est très fréquent. Ce mélange entre une réalité très, très, très concrète, comme on dit, comme on entend ce mot, quand on présente des choses concrètes. Vous savez, ce que les gens appellent concret, c'est souvent et uniquement la comptabilité. C'est-à-dire, elles adhèrent à ce mirage, à cette idole qu'est l'argent. Parce que le concret, pour beaucoup de femmes actuelles, c'est l'argent. Je dis des choses qui peut-être vous paraîtront sévères et exagérées, c'est vrai. Elles compensent ça par beaucoup d'autres qualités, c'est certain, qu'elles présentent aussi d'une autre manière. Oui. Pour elles également, il y a, si vous voulez, et si, hélas, particulièrement pour celles qui se croient ou sont dans la voie religieuse, la prière doit correspondre à une efficacité assez rapide. Le bon Dieu n'a pas compris, parce qu'il n'a pas réalisé tout ce que je demandais, et tout ce que je demandais d'une manière très précise et très concrète. Et ceci, quand vous pensez que maintenant, la réalité pour la plupart des gens est devenue l'argent. Et bien, que on essaie d'avoir des provisions dans son placard pour faire manger sa famille, ça me paraît tout à fait normal, et c'est, dans son exagération peut-être une fausse, mais dans son principe une réalité. À l'heure actuelle, l'argent qu'on adore, qu'on met dans des comptes en banque, ce n'est plus quelque chose qui nourrit, car vous n'avez jamais nourri vos enfants avec de la galette en tant qu'argent. Les chèques, l'argent même, la monnaie, vous ne faites pas manger vos enfants et les gens dont vous avez la responsabilité dans votre famille avec l'argent tel qu'il est représenté. Un chèque n'a jamais nourri personne. Alors, attention à une chose qui est très fréquente et peut-être plus encore fréquente chez les femmes que chez les hommes à notre époque. On a une tendance très grave à confondre l'économie, la prévision avec de l'argent. C'est-à-dire de confondre quelque chose qui correspond à un besoin normal et légitime, même s'il est exagéré, avec, au fond, quelque chose qui est l'abstrait total. Vous remplacez la prudence légitime, l'économie légitime, par l'idole qui est un chèque ou un compte en banque. Et vous êtes poussé par tout, parce que tout se traduit par ça dans notre époque. Regardez, par exemple, la réaction que vous avez tous vis-à-vis de la sécurité sociale. On réclame de la sécurité sociale. On a droit. Et à partir de ce moment-là, on se ruine et on ruine la sécurité sociale par la même occasion. Ceci, c'est une réaction qui est aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais qui est hélas très répandue chez les femmes. Vous pouvez vous imaginer le temps qu'on passe à écouter et à fixer des détails qui couvrent une inquiétude qui est vraie, mais qui se couvre finalement uniquement par les détails. Le concret, c'est la galette, c'est le compte en banque, c'est la monnaie. Et c'est là-dessus que sont établies les économies qui sont parfaitement légitimes. Les réactions aussi des femmes. Eh bien, les réactions des femmes qui, par leur nature, ont des contraintes qui existent. C'est de les rendre poétiques. Et en sortant de la réaction normale, qui est normale, eh bien, on rend les choses politiques. Les femmes n'aiment pas, souvent, être la victime de certaines contraintes qui sont les leurs. Et alors, elles ont tendance à décrocher pour entrer dans un idéalisme tout à fait absurde. Oui. Elles sont beaucoup plus que l'homme terrestre, c'est-à-dire liées à quelque chose qui se traduit par des... par une réalité parfois pas très élevée, mais elles sont très profondément. Elles sont très profondément axées là-dessus. Il y a un désir qui est un désir normal.